Cube Radio.
With the first pick.
Le repêchage de la NFL s'en vient à grands pas. Enfin. Qui sont les joueurs à surveiller? Nos experts vous présentent le top 10 de 2021. On se pose aussi la question, pourquoi les carrières sont à l'honneur plus que jamais cette année? Le temps des spéculations achève en vue du repêchage et c'est au tour de la zone payante de vous faire part de ses prédictions. Bonjour à tous, bienvenue à une édition hors série de la zone payante, une édition pour le repêchage de 2021 qui s'en vient à grands pas. Jean-Nicolas Gagné avec vous et je suis accompagné de mes deux acolytes, Stéphane Cadaret, expert au Journal de Québec et de Montréal. Salut Steph!
Salut! Très content de vous retrouver les gars, ça fait vraiment plaisir.
Et on retrouve Jean Carrier aussi, expert football, ancien entraîneur. Salut Jean!
Salut, je suis très satisfait également les gars, je suis vraiment content d'être là.
Et puis, on a une grosse émission, on a beaucoup de sujets, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, on va en profiter pour sauter tout de suite, si vous voulez bien, les gars, dans l'actualité, avant d'aller parler du repêchage. Mais dans l'actualité, il y a plusieurs choses qui se passent, on va mettre la table un peu. Commençons par un sujet qui nous a quitté, quand on a quitté avec le Super Bowl, c'était un sujet qui était dans l'air, là, c'est toujours pas réglé. DeSean Jackson, sa carrière est remise en question, toutes sortes d'accusations, des menaces de vouloir demander un échange. Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal, les gars, pour DeSean Jackson dans la prochaine saison?
Ah ben là, moi je vois pas beaucoup de football dans la boule de cristal. Honnêtement, je sais pas là, mais quand il y a des situations comme ça qui s'en vont jusqu'en justice, ça finit rarement bien là, pour le joueur. Là. C'est-à-dire qu'il peut laver son nom par la suite, ça c'est pas exclu, mais pour la saison à venir, ça risque d'être un long combat qui va lui faire rater du temps. Moi, je vois pas comment il peut être le partant, à tout le moins en début de saison. Il faudra voir si les procédures peuvent se dérouler rapidement, mais c'est souvent long et laborieux. Puis DeSean Watson... son image en a pris pour son rhume, là. On sait pas ce qui va arriver. On peut pas non plus se prononcer pour l'instant. Mais chose certaine, j'ai l'impression qu'il va se retrouver sur la fameuse liste du commissaire, c'est-à-dire qu'il est payé, mais il joue pas. C'était comme le compromis là, quand on sait pas trop où garocher un joueur. Là. Je me rappelle, ça avait été ça dans le fameux cas avec Adrian Peterson là, qui avait battu son enfant à coups de branche. Très édifiant, ça. C'était ce qui s'était produit pendant les premiers mois de l'affaire. Donc, ça reste à suivre, mais je vois pas comment DeSean Watson va être le corps arrière partant des Texans de Houston pour le début de la prochaine saison. Faudra s'y faire à revoir l'excellent Tyrod Taylor.
Oh, wow. Toi, Jean, est-ce que tu penses ça aussi que DeSean va être à l'écart pour le retour au jeu en septembre?
Ben, ça regarde pas bien, puis honnêtement, je suis d'accord un peu avec Steph. T'sais, c'est tout point dans cette direction-là. Je vois pas comment on peut s'en sortir. T'sais, l'autre point, on peut dire il y a pas de fumée sans feu. T'sais, des fois, tu dis une ou deux plaignantes. Écoute, c'est peut-être quelque chose qui est pas là, mais là, ça semble avoir un consensus. Je pense qu'ils sont rendus à 22 ou 23 plaignantes. De là à dire que c'est une coalition puis qu'ils se sont tous arrangés ensemble puis que c'est pas vrai, ça commence à être difficile à croire. C'est là qu'évidemment l'image de DeSean Watson, tu sais, DeSean Watson, il a jamais eu quoi que ce soit autour de lui au corps.
Au contraire, même c'était l'image du bon gars avec sa mère,
oui, c'est ça là. C'est vraiment l'image, exactement, c'est le mama's boy, c'est l'image du petit-fils à maman qui est gentil, qui est poli, qui dit les bonnes choses. Puis là, plus tu lis là-dessus, plus tu vois que il s'est pas comporté de la bonne façon, peu importe ce qui est arrivé. Puis son image en prend vraiment...
La NFL a de la difficulté à gérer ce dossier-là. Clairement, ils sont silencieux pas mal plus que dans d'autres dossiers de joueurs un petit peu moins vedettes. Ça aussi, le slingshot risque de revenir dans face de la NFL bientôt.
Ben, le fait que c'était l'image aussi, d'une certaine façon, de la NFL, c'est qu'il fait partie des très, très bons carrières. C'est peut-être pour ça aussi que ça prend un peu plus de temps à gérer. Puis c'est sûr que la NFL, si elle prend la décision de le mettre sur la liste du commissaire, tu veux pas te tromper, là. Tu veux pas revenir après et dire ouais, on s'est peut-être trompé, on n'a pas fait les bonnes choses. J'imagine que tu refais ton boulot encore et encore pour être certain que quand tu vas prendre la décision, ça va être la bonne décision. Ceci étant dit, moi j'ai toujours l'impression de qu'il faut toujours laisser la justice parler en premier. Moi, c'est mon impression toujours.
Oui, mais c'est dans le passé, on a vu quand même la NFL réagir.
Exact, pas c'est mal là plus le problème de la NFL.
Oui. Même si la justice n'était pas présentée. Pendant ce temps-là, les gars, Anthony Auclair, lui, s'en va à Houston. Est-ce qu'il s'en va dans une espèce de bordel qui aurait dû se tenir loin?
Ben, c'est sûr qu'il passe d'un contexte d'équipe championne à... C'est
incroyable.
Fort probablement l'équipe qui va terminer au bas de la liste là, cette année.
Écoute, lui, il est rentré dans l'ascenseur, il est au penthouse, puis il a demandé au gars qui dirige
envoyez-moi
l'ascenseur.
Pas au sous-sol, envoyez-moi dans les catacombes, là, c'est encore plus beau. Mais honnêtement, ça c'est du point de vue collectif. Du point de vue personnel, moi je peux comprendre sincèrement le move d'Anthony Auclair. Tu te retrouves dans une équipe, là, regardez la situation au poste d'ailier rapproché. T'as des gars comme Jordan Akins, bon, il est semi-établi, là, je pense qu'il a un potentiel quand même intéressant, mais après lui, que Holly Waring, Paul Cussenberry, Farrell Brown, Ryan Izzo. On parle de joueurs qui sont tous sur des contrats d'un an, sauf Waring. Auclair a clairement une place à prendre à Houston. Lui aussi a obtenu un contrat d'un an. Puis ça aussi, c'était le bon move parce que l'an prochain, le plafond salarial va augmenter de nouveau. Cette année, on sait qu'il y a eu une chute importante là, due aux pertes de revenus liées à la COVID. Là, il y a un gros contrat télé qui a été signé. Donc, le plafond va reprendre la vigueur. Ça devrait être profitable pour des joueurs comme Auclair qui se cherchent des contrats. Donc, lui, l'important cette année, je pense que c'était de se faire voir, de se faire remarquer sur le terrain, de montrer qu'il y a toujours l'étoffe d'un bon blocking tight end en bon français. Là. C'est surtout ça, lui, son rôle de bloquer. Parce que l'année passée, il n'a pas vu beaucoup de terrain, il a été blessé, il a raté plusieurs matchs, il n'a pas été en uniforme en série. On sait tous l'histoire. Ça n'a pas joué pour lui, clairement. Donc, c'est l'occasion, je pense, d'aller se refaire une belle réputation à Houston. Donc, d'un point de vue collectif, ça risque d'être difficile. D'un point de vue individuel, moi, je vois totalement là, le bon côté des choses pour lui.
Anthony a simplement pensé à lui-même. Il a gagné le gros caillou, il a gagné la bague. Il a fait des sacrifices pour ça, dont le sacrifice de ne pas être habillé en séries éliminatoires. Je suis certain que c'est un fier compétiteur. Je suis sûr qu'il était pas content, mais il l'a fait pour le bien de l'équipe. Il a gagné le trophée Lombardi. Puis là, il est prêt à avoir du temps de jeu. Je suis convaincu qu'il est prêt à se battre pour le terrain, pour le gagner, ce temps de jeu-là. Puis moi, je suis convaincu qu'il a pris une bonne décision. Je pense que sa valeur va monter à Houston. Je pense qu'il va être sur le terrain. Et peut-être, pourquoi pas, dans un rôle accru.
Peut-être, là, avec le ballon dans les mains.
Exact. Peut-être de temps en temps, ça sera jamais, je pense, sa plus grande force, mais de temps en temps, être en mesure de capter quelques passes, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est une bonne décision dans son cas. Puis de toute façon, les gars, il sait un peu dans quoi qu'il s'est embarqué, parce que on va se le dire, les box avant Brady, c'était très, très ordinaire, surtout de la première année d'Auclair. Donc, il sait un peu dans quoi qu'il s'en
va. C'est sûr que c'est toujours mieux d'arriver à un endroit où les attentes sont basses. Là,
tu as bien mentionné ça, Jean, parce que, écoute, je l'avais en appel conférence la semaine passée, puis c'est exactement le point qu'il a apporté quand on lui a parlé des Texans de Houston qui risquent d'être pas nécessairement une grosse équipe l'an prochain, disons-le poliment, là. C'est exactement le point qu'il a amené. Il dit, je sais exactement dans quoi je m'embarque. Je l'ai vécu pendant 3 saisons difficiles à Tampa avant qu'on gagne les grands honneurs. Ça n'a pas été facile, mais on a monté quelque chose de bien ensemble. Donc, c'est pas comme s'il s'en va là, puis que non, on va surprendre, on va tout casser. Je pense qu'il a la bonne mentalité. Il est conscient que c'est une équipe en reconstruction. Écoute, c'est presque une équipe d'expansion, là. Il y a 30 agents libres qui ont été embauchés cet hiver par les Texans. Il y a 4 joueurs qui ont été acquis par voie de transaction. On parle d'une équipe complètement différente. Puis quand je dis 30 agents libres, là, c'est pas des gros noms. Donc, c'est une équipe qui repart là, pas mal à zéro. On essaie de repartir sur des nouvelles bases. Puis, écoute, probablement sans Deshaun Watson, parce que ce qu'on mentionnait tantôt, juste pour finir là-dessus, même si sa situation légale était réglée, il n'y a rien qui dit que lui accepterait de revenir la tête entre les jambes en s'excusant, en disant finalement, j'aimerais bien ça être le corps arrière des Texans. Donc, c'est une situation qui est clairement pas réglée parce que
exact,
les Texans...
C'est vraiment à double volet. Là. Ben il y a l'aspect judiciaire, mais faut pas oublier que ça y tente pas d'être là.
Non, ça y tente pas plus. Puis les Texans ont perdu leur pouvoir dans les négociations là, parce que c'est pas un dossier qui est très reluisant là en apparence. On verra là, si la justice en décide autrement. Là. Mais ils ont clairement perdu beaucoup, beaucoup de pouvoir dans leurs négociations potentielles avec les autres équipes.
Bon, parlant de carrières qui ont eu des problèmes, peut-être des démêlés avec la justice, là, depuis qu'on s'est parlé, on a appris que Ben Roethlisberger, lui, revenait cette année quand même. C'est un peu une surprise. La face qu'il avait après la dernière game, on pensait que c'était sa dernière. Drew Brees, sans trop de surprise, a annoncé qu'il quittait. Alex Smith, qui a fait le retour de l'année, qui a amené son équipe en série, l'an passé, a annoncé sa retraite. Julian Edelman aussi qui a annoncé sa retraite. Est-ce qu'il y a des joueurs là-dedans que ça vous surprenne ou à qui vous voulez de faire un hommage ou qui aurait dû essayer pour une autre année?
Ben le joueur qui m'a vraiment surpris, c'est Julian Edelman. C'est sorti quand même rapidement. J'avais pas vu de signe précurseur un peu qui allait passer à cette décision-là. Puis j'ai énormément de respect pour le petit receveur des Pats, un gars qui a challengé tout ce qu'on disait sur lui toute sa vie. Tu sais, c'est le fameux underdog, un gars qui a pas été repêché, qui a travaillé pour tout ce qu'il a eu dans la NFL. Il a eu une très solide carrière. Il a eu 4 grosses saisons comme receveur. Il a toujours été à son mieux dans les moments les plus importants. En séries éliminatoires, tu ne peux que respecter ce gars-là, honnêtement.
Pour dire un mot, je suis tout à fait d'accord avec Edelman. Je trouvais que les gens étaient vite là, à diminuer ses chiffres en saison régulière quand il a annoncé sa retraite. Il faut voir l'ensemble de l'œuvre. Puis ça a été Monsieur Clutch pour moi, Julian Edelman. Là. En série, il a été tout simplement formidable.
Tout à fait.
Tu peux pas juste dire... Ouais, on sait bien, c'est Tom Brady qui lançait le ballon, là. Écoute, il est deuxième dans l'histoire en série derrière Jerry Rice pour le nombre de réceptions puis les verges accumulées, là. C'est quand même pas rien, donc chapeau.
Mais c'était incroyable quand même le petit moment où qui a été saisi par NFL Films de Bill Belichick qui parle à Wes Welker qui est sur les bords, sur les lignes de côté, puis Julian Edelman qui le remplace pour un retour de beauté. Puis as-tu déjà entendu parler de Wally Pipe, là? Non? Ça, c'est le gars qui était au premier but avant le célèbre
Lou Gehrig.
Ça, c'était le gars qui était au premier but avant Lou Gehrig, mais c'est ça, t'en as jamais entendu parler parce que quand il était remplacé, il est jamais retourné sur le jeu. Wes Welker a appris à la dure que Julian Edelman allait prendre son poste pour la suite et le reste, c'est l'histoire.
Du grand Belichick. Puis juste un petit mot sur Alex Smith. Formidable là, son retour. Je pense qu'on l'a dit 10 ou 20 ou 30 fois cette année dans notre show. On admire ce gars-là, mais il faut être réaliste. Si je regarde l'ensemble de sa carrière, pour moi, personnellement, ça n'a pas été à la hauteur d'un premier choix au total. C'est une belle carrière. Il y a eu des moments là, très très bons, là, t'sais, des très bons moments là, au fil de sa carrière, de belles années. Il a été long à démarrer, par contre. Ça a été un carrière, là, t'sais, c'était un plafond limité quand même. Tu peux pas faire tout ce que tu voulais avec lui. Il reste qu'il a été un gagnant, il a fait un retour au jeu qui est probablement le fait d'armes de sa carrière. C'est fantastique ce qu'il a accompli pour revenir au jeu. Mais l'émotion dans tout ça nous fait parfois oublier qu'Alex Smith, moi globalement, je trouve que ça a été un bon corps arrière. Mais quand tu es repêché premier au total, c'est pas forcément pour être un bon corps arrière.
Donc, même que l'an passé, on se rappelle de sa saison, mais il n'aura pas fait plus que 1500 verges et 6 passes de toucher. Il n'y a pas non plus... c'était une belle saison, pleine d'émotions, puis il a réussi à
amener... Mais tu sais, je veux pas lui manquer de respect.
Non,
c'est
non,
ça,
c'est vrai. Dis, mais ses statistiques sont pas là.
Mais j'essaie de voir dans l'ensemble sa carrière, si on avait à résumer, tu sais, pour moi, j'essaie de retenir le portrait global.
Il y a Jordan Reed aussi qui a pris sa retraite en raison des commotions. C'est un gars qui était bourré de talent, honnêtement. Ouais. Il a toujours été blessé dans sa carrière NFL. Je trouve ça triste un peu, mais ça fait partie du sport. Mais cet allié rapproché-là avait beaucoup plus de potentiel que ce qu'il a montré malheureusement dans la NFL.
OK, merci les gars. Après la pause, ben là, on va en parler des choix au repêchage de cette année, du draft 2021 de la NFL qui va avoir lieu dans quelques jours. On parlait d'Alex Smith qui a été un premier choix repêchage au total. Moins de surprises cette année, mais quand même d'autres sujets à discuter. On s'en parle après la pause. On est de retour à la zone payante. Jean-Nicolas Gagnon en compagnie de Stéphane Cadorette et de Jean Carrier. On parle du repêchage de 2021 pour la NFL, le draft pour nos amis français. Bon, écoutez les gars, cette année, c'est un peu à chaque année, mais cette année, on dirait que c'est encore pire. Là. Ça me rappelle l'année de Sam Darnold, Josh Rosen, etc. On dirait que les quarts arrière occupent presque 90% des discussions pour le repêchage de cette année. On va commencer nous aussi à parler en parlant des carrières pour le premier essai de ce match. Jean, parle-moi des carrières en lice. On connaît beaucoup Trevor Lawrence pour ceux qui suivent le repêchage depuis quelques semaines. Parle-nous-en, mais aussi, je veux vous entendre les gars, comment ça va se dessiner? C'est fou. Est-ce qu'il va y avoir 5 carrières de prix dans les 5 premiers choix?
Pas dans les 5 premiers, ça j'en suis convaincu, mais ils vont partir assez rapidement. Puis ça va avec, je dirais, cette fameuse façon de voir la NFL où ce que les carrières, je pense, prennent de plus en plus d'importance avec un jeu axé sur la passe. Puis tu vois que si t'as pas un bon carrière, tu peux faire les séries, mais tes chances de gagner le Super Bowl sont très, très minces, on va le dire comme ça. Je peux te donner mon top 5, pas nécessairement ce qui va sortir lors du repêchage, mais moi, je vais te les classer en ordre, selon moi. Mon premier, c'est Trevor Lawrence, évidemment, un talent générationnel, un joueur qui a joué à Clemson. Je pense qu'il y a 3 défaites, je pense, dans sa carrière.
Deux défaites, 34 victoires, c'est quand même assez impressionnant.
Écoute, il y a trois fois il a fait les séries là, où il y a seulement 4 équipes là, qui font les séries dans le college football. Les 3 années, il est 3-3. Il y a un championnat national là-dedans, sa première année où ce qui avait dépassé Alabama. Les gens ont tendance à peut-être l'oublier, mais c'est quand même là. C'est un gars qui était prêt pour la NFL, selon moi, il y a 2 ans. Là, il y a 2 années de plus dans le college football. Il a très, très peu de défauts. Il est mobile. Son bras est exceptionnel. Selon moi, la seule chose, des fois, c'est sa prise de décision. Des fois, il a tendance à forcer des ballons dans des fenêtres très, très étroites. Puis, il peut arriver là, des fois des mauvaises choses avec ça. Mais en général, c'est un gars qui a aussi une très bonne intelligence sur le terrain. Il va à travers ses lectures. Honnêtement, je vois pas comment
pour lui trouver un défaut, dernièrement, suite à une entrevue qu'il a donnée, on a l'impression que son désir de gagner serait pas aussi important que la moyenne d'un joueur, mettons, à sa position. Est-ce que
ça risque de lui nuire? J'ai pas porté trop attention à ce qu'il a dit, honnêtement. Tu sais, je trouve que les gars sont tellement scrutés à la loupe, tu sais, au microscope fois 100 000. Je trouvais pas que c'était une déclaration incendiaire, loin de là. Il a juste dit qu'il voulait pas nécessairement gagner à tout prix. Qu'est-ce que ça inclut là-dedans? Il l'a dit par la suite. Il dit « Je travaille très, très fort. » Son éthique de travail a jamais été remise en question à Clemson. Moi, j'ai pas là-dessus, je porte pas attention à ça.
En fait, ce qu'il dit beaucoup dans cette entrevue-là avec Sports Illustrated, si je me trompe pas, c'est que le football le définit, mais il n'y a pas que le football exact qui va le définir dans sa vie. C'est ça qui devait ressortir, à mon avis, de cet entretien-là, mais on a plus axé sur est-ce qu'il veut tout faire pour gagner. Mais on est dans la saison du repêchage. C'est à chaque année, c'est des choses comme ça. Il y a des petits poux qui commencent à sortir. C'est trop long. C'est trop long. La saison finit là, au mois de février, puis pendant 2 mois et demi, on suranalyse ces jeunes-là. Puis à un moment donné, ça finit que chacun de ces jeunes-là a des poux, puis des squelettes dans le placard, puis toutes sortes de patentes. Trevor Lawrence, là, il reste qu'écoute, je remettrai pas en doute, moi, son désir de vaincre, personnellement.
Non, même chose pour moi. Puis, je pense honnêtement qu'il va être un carrière à la hauteur de son rang.
OK, allons-y avec les autres, si vous voulez bien.
Les autres, gars. Moi, j'ai Justin Fields comme numéro 2.
Ah oui, encore?
Moi aussi. Même chose ici.
OK. Moi, je ne comprends pas pourquoi Justin Fields a glissé. Tu regardes tout ce qu'il a fait à Ohio State comme carrière. Il a été très solide tout le long de la carrière. Puis moi, au contraire, dans les séries éliminatoires, j'ai encore plus aimé ce que j'ai vu. Écoute, il a joué blessé en finale et même pas mal tout le long de la demi-finale parce qu'il a mangé une solide shot d'un côte en demi-finale cette année contre Clemson. C'est sûr qu'il devait avoir des côtes fêlées, peut-être même cassées. Il est resté sur le terrain, il s'est jamais posé de questions. Moi, j'en ai appris beaucoup sur Justin Fields à ce moment-là, au-delà de ses qualités de carrière. Puis comme carrière, il y en a des fois qui remettent sa précision en cause. Mais quand tu regardes ses statistiques, les statistiques avancées, Justin Fields est très, très, très précis. Puis c'est le carrière qui a pris le plus de shots dans les zones profondes de tous les autres carrières. Moi, j'ai que du respect pour Justin Fields, puis je suis convaincu qui va être un solide carrière dans la NFL.
Le fait, Stéphane, qui a l'épilepsie, est-ce que tu penses que ça peut faire peur à certaines équipes qui font en sorte qu'il descend dans le repêchage?
Je penserais pas. Tu sais, c'est une condition là qui vient de dévoiler, là. Mais écoute, il a fonctionné avec ça, là. C'est pas comme si ça vient d'arriver. Il fonctionnait avec ça, ça lui a pas nui sur la scène universitaire. Je pense pas que c'est un facteur important à considérer. Puis avec la médecine aujourd'hui, j'ai bien l'impression que Justin Fields va être en mesure d'avoir la carrière professionnelle dont il est capable. Puis comme Jean le disait, moi j'adore le point de Jean. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais il est pas précis, il se fie à sa première lecture. C'est le gars qui hésite jamais à attaquer sur un terrain. Au point où dans la NFL, s'il y a une chose selon moi qu'il doit apprendre, c'est soit capable d'accepter que 4 verges sur un premier jeu, c'est correct. C'est pas un drame. Là. T'es pas obligé de prendre une shot à chaque passe.
Exact.
Mais j'aime mieux un corps arrière que je dois retenir qu'un corps arrière que je dois lui rappeler constamment. Écoute, n'aie pas peur, là. Vas-y, là. Lance la balle. Pour moi, Justin Fields, c'est clairement le deuxième. C'est drôle de voir comment il a glissé. L'année passée, là, écoute, avant la saison NCAA, c'était clair. On parlait même de Lawrence ou Fields dans certains cas, mais sinon, il était clairement deuxième. Là, je le vois dans certains classements, quatrième, cinquième corps arrière des fois. Je sais pas exactement ce qui s'est passé dans les derniers mois pour qu'on s'attaque un peu là.
Il a tenu un deuxième pro day. Ça, des fois, ça veut pas dire qu'il a déçu dans certaines qu'il voulait se reprendre. Peut-être que
le premier pro day qu'il a fait, c'était tout simplement phénoménal. C'était hallucinant de le voir. Puis, je suis pas un gars de pro day puis de combine nécessairement. Je pense que ce qui parle le plus, c'est le jeu en situation de match.
Exact.
Les équipes en ont vu assez. Là, ils n'ont pas besoin nécessairement d'un pro day pour se décider entre Justin Fields ou Mac Jones ou Trey Lance. Mais écoute, le show qu'il a donné, c'était juste pour dire qu'est-ce que tu peux démontrer de plus. Ses passes en mouvement sont tout simplement phénoménales.
Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'il souffre peut-être là, de la célèbre phrase « NFL ready » là? C'est ce qu'on dit. Ça, je sais pas, je vais pas aller sur votre numéro 3 tout de suite, mais est-ce que, quand on le compare à Zach Wilson, que tout le monde dit « prêt pour la NFL », est-ce que c'est ça un peu là, qui amenuise ses chances d'être sélectionné deuxième
dans les Jets? Point rapide là-dessus. Moi, au contraire, si tu me demandes qui est le plus prêt entre Wilson et Fields, écoute, on peut se tromper, les gars. On peut réécouter ça dans 2 mois et avoir l'air complètement farfelu. On le sait pas.
Dans 2 mois, peut-être pas, mais...
Fields, pour moi, a affronté de la grosse, grosse compétition dans le Big Ten. Il a joué de gros matchs de série. Il a été performant dans ces circonstances-là, alors que Zach Wilson, tu sais, c'est super, là, mais à BYU, la compétition est pas mal médiocre. On l'a pas vu nécessairement là, dans ces grands matchs-là. Je sais pas comment il va répondre au prochain niveau. Tu sais, il est capable d'improviser, tu sais, les fameux jeux off-script qu'on appelle, où il sort là finalement de la pochette, il improvise, il étire le jeu. Il a été vraiment fantastique à ce niveau-là, Zach Wilson. Mais c'est une chose de le faire contre l'opposition qu'il y a eu.
C'est ça.
Puis de le faire dans la NFL. Justin Fields a vécu ce niveau de compétition-là très élevé. Okay, pour moi, c'est un gros avantage.
Vous entendez les deux sur Lawrence et Fields en troisième. Est-ce que...
Ouais, moi, je pense que c'est peut-être là qu'on va changer. Moi, j'ai Trey Lance comme numéro 3.
Ouais, j'ai hésité beaucoup, moi, entre Lance puis Wilson. J'ai quand même un coup de cœur pour Lance, mais c'est l'incertitude parce que Lance, c'est beaucoup de la projection. C'est pas nécessairement de la production, là, parce que la production, encore là, là c'est, on parle d'un très petit programme dans une équipe qui est très axée sur le jeu au sol, mais le potentiel est tellement intriguant, tellement alléchant. C'est un athlète extraordinaire, un bras carrément canon. Donc, c'est tentant.
OK, mais Jean, parle-nous-en un peu de Trey Lance.
Ben honnêtement, c'est sûr que si quelqu'un me dit j'ai vu tous les matchs de Trey Lance depuis qu'il est là.
Ouais, là, ouais.
Là je dirais ben écoute, peut-être que tu écoutes un peu trop de football parce que c'est évidemment une conférence qui est pas très très forte. C'est une petite université, mais donc Dakota, mais ce qu'il faut aimer comme Steph a mentionné, c'est son potentiel. J'ai beaucoup lu sur lui aussi, c'est une éthique de travail irréprochable. C'est un gars qui est le premier à rentrer pour faire du tape, c'est le dernier sorti, comme là, un carrière devrait agir. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il jouait dans une attaque de style pro-offense. Donc, une attaque qui ressemble beaucoup aux attaques de la NFL. Ça, moi, ça me parle également. Donc, il va être au niveau stratégique, selon moi, il va être en avance peut-être sur quelques-uns qui jouaient dans du spread offense. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis il est très, très athlétique. Oui. Ça, c'est un carrière qui est capable d'évoluer dans la pochette, mais si besoin fait sentir, il est capable de courir également. Donc, moi, c'est un peu la carte cachée, moi, je pense, du repêchage. Puis
est-ce que tu penses que les équipes de la NFL voient la même chose que toi aussitôt? Parce que troisième, là, on parle des 49ers.
Oui, exact. Puis moi, je pense qu'il serait un bon fit dans ce système-là. On parle là,
les
Niners parlent beaucoup de Mac Jones.
Ouais, ouais.
Mais Trey Lance pourrait également, je pense, être un excellent.
Mais on va faire nos prédictions tantôt, mais ça veut pas nécessairement dire que dans ta tête les 49ers le prendraient, mais pour toi c'est le troisième meilleur quart du groupe. Ouais. Parlons de Zach Wilson maintenant, Steph.
Ben, Zach Wilson, comme je disais, ce qui a vraiment impressionné dans son cas, c'est qu'il est sorti de nulle part. C'est impressionnant, mais en même temps, moi, je me méfie toujours de ça. Parce que l'année passée, quand la saison a terminé puis qu'il retournait à BYU, il était même pas assuré d'être le carrière partant. Donc, forcément, on parlait même pas de lui comme d'un choix de première ronde, loin de là. Cette année, ben écoute, il brise tout, il amène BYU, là, il en fait une équipe très compétitive. Mais je reviens au niveau de compétition, c'est toujours un doute. Puis quand un corps arrière sort de nulle part comme ça, faut juste se méfier. Ça veut pas dire qu'il sera pas bon dans la NFL. On fait un classement là, de 5 corps arrière. Ça veut pas dire que le 4e puis le 5e, c'est des gars qui ont aucune chance. Au contraire, tous Évidemment. Ces gars-là, faut se rappeler, là, ils vont être repêchés sûr
puis
en première ronde.
Le point qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a aucune chance non plus que les 5 ou 6 premiers carrières soient tous des partants dans la NFL.
Non.
Ça n'arrivera pas, là. C'est jamais arrivé. Écoute, je serais très surpris que cette QV-là soit l'exception, là.
La tendance, si vraiment, là, on est chanceux avec ces 5-là, il y en a 2 qui vont être très bons, là. 2. Je pense pas, là, qu'on peut aller à 3 puis 4. Selon les probabilités, là, puis selon l'historique chez les corps arrière choisis en première ronde, à chaque année, on se monte de beaux grands bateaux. Mais finalement, on est souvent déçu. Il y en a 2 qui risquent d'être probablement très bons, 2 déceptions, puis un flop total là, probablement là-dedans. Là.
En 4e?
C'est la loi là-dedans là, des chiffres. Là. Si vous regardez d'année en année en année, là, ça ne peut pas faire autrement.
En 4e,
si je comprends, Stéphane, ton classement, toi, t'as Zach Wilson numéro 3.
Ouais, j'ai quand même Zach Wilson en 3 parce que je suis franchement attiré par sa capacité à improviser. Je trouve ça fort un peu quand les gens le comparent de facto à Patrick Mahomes, là, parce qu'il improvise, parce qu'il sort de la pochette, puis il a souvent des passes en faisant des motions à angle très variés, très particuliers là aussi. Donc,
il y a
ça,
un bras très, très fluide, puis je pense que c'est peut-être le meilleur passeur peut-être de tout le lot. Par contre, écoute, moi je l'ai même pas 3, je l'ai même pas 4. Je l'ai 5, Zach Wilson.
Okay.
Pourquoi? Parce que je trouve que c'est peut-être lui qui a le plus haut potentiel de risque dans les choix. Ça se peut que ça soit un joueur extraordinaire, donc mais tu prends une chance selon moi en le prenant, ou il peut devenir un peu un boss. Je peux le comparer à Josh Rosen un peu. Josh Rosen, d'un point de vue carrière, il était capable de faire tous ces lancers-là. Il a joué lui aussi dans le Pac-12, qui n'est pas nécessairement la plus grosse conférence présentement aux États-Unis. Mais Zach Wilson, il a joué dans une conférence encore plus faible que ça. Il a un bras extraordinaire, mais selon moi, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il vaut vraiment. Par contre, je pense aussi qu'il pourrait être la surprise, puis il pourrait être le Justin Herbert du draft.
Ouais.
C'est possible aussi. Mais moi, c'est le plus gros risque, selon moi, des carrières. Si tu prends Fields ou Lawrence, selon moi, t'es pas mal certain de ce que t'as. Zach Wilson, selon moi, c'est un point d'interrogation.
Okay, mais à partir des trois derniers, tu commences à guesser un peu plus.
Vous avez quatre des cinq premiers que vous avez les mêmes. Là, il vous en reste un. Est-ce que vous avez tous les deux Mac Jones dans les cinq meilleures carrières?
Ben, moi, j'ai Mac Jones 4 puis Wilson 5. Donc, je suis un peu différent de Stéphane. Moi, j'aime beaucoup Mac Jones. Je pense, par contre, qu'il peut pas jouer avec n'importe quelle équipe dans la NFL. Ça va y prendre un système qui est un peu adapté à ce qu'il fait. C'est un gars qui est pas ultra athlétique, mais il est pas mal plus athlétique que ce que les gens lui donnent crédit. C'est un gars qui bouge bien à l'intérieur de la pochette. Je veux pas nécessairement le comparer au GOAT, Tom Brady. Je vais le faire pareil. Il y a ce genre de footing-là dans la pochette. Juste ça, là. Je parle juste de ça.
Mm-hmm.
Il est décevant un peu pour l'adversaire parce que tu penses qu'il est pas mobile du tout, mais il est quand même très intelligent dans sa pochette, puis il est capable en général de lancer la balle rapidement, puis de bien identifier. C'est un carrière qui est très cérébral. Il a quand même un bon bras. Moi, j'aime beaucoup Mac Jones, mais je pense que ça va vraiment dépendre avec l'équipe qui va tomber.
OK, vas-y.
Ce qui me fait peur du côté de Mac Jones, c'est le fait qu'il a joué tellement avec un alignement formidable Alabama. Les receveurs étaient souvent tellement ouverts, c'était hallucinant. J'ai hâte de voir dans la NFL les fameuses passes dans des courtes fenêtres, les fameux tight windows, les fenêtres serrées. C'est là où vraiment je m'interroge, parce qu'il y a un bon sens de l'anticipation, tu sais, il anticipe bien là, le tracé de son receveur, puis il est capable d'amener le ballon où il faut, il y a un bon taux de précision, mais en même temps, le fameux 77% de passes complétées, quand tes receveurs sont ouverts à gambader dans les prés, des fois, ça gonfle un peu là, les perceptions. C'est le côté qui me fait peur de Mac Jones, côté intelligence, QI, football, tout ça. C'est certain là que j'ai pas de problème de ce côté-là.
Fait que Jean, toi, tu dis que Mac Jones va devenir meilleur que Tom Brady, mais Stéphane a quand même encore des réserves.
Pas du tout.
Raccourci.
Mais j'aime beaucoup Mac Jones, mais je pense vraiment que dans son cas, ça va prendre un bon fit avec l'équipe qu'il repêche, tout simplement. Puis le facteur X, je dirais pour les carrières, c'est Kellen Mond, pour moi, qui est le carrière de Texas A&M. Très, très athlétique. Tu le repêches pas en première ronde, mais peut-être en troisième ou deuxième ronde.
Ce serait une belle valeur.
Pourrait surprendre bien des gens.
Hey, juste une note sur Kellen Mond pour terminer. Là, justement, il a été MVP au dernier Senior Bowl. Dans les dernières années, juste pour s'amuser, là, quelques MVP du Senior Bowl. Dak Prescott, Daniel Jones, Justin Herbert. Donc,
trois
partants. Ça veut pas dire qu'il suit cette trajectoire-là. Il y en a eu d'autres aussi qui ont carrément fait patate dans la NFL, mais je voulais juste le mentionner parce que c'est vrai qu'en deuxième, troisième ronde, ça peut devenir une valeur intéressante.
OK, on a vu la question des QB, je pense. On va passer un peu au deuxième essai, si vous le voulez bien, les gars, aux joueurs de position. On va essayer de faire ça vite quand même, mais il y en a plusieurs qui sont qui piquent notre curiosité. Allons-y avec, d'après vous, le meilleur joueur disponible, en tout cas le meilleur joueur qui s'offre au repêchage cette année, qui n'est pas un corps arrière. D'après toi, Jean, c'est qui?
Moi, je pense que c'est Jamar Chase, le receveur de LSU. Il me fait vraiment penser à Steve Smith Sr., celui qui a joué là, évidemment avec les Ravens dans ses dernières années et la grande majorité de sa carrière avec les Panthers de la Caroline. Petit gabarit, très fort physiquement, très explosif, puis est capable de se démarquer dans les zones profondes. Je pense vraiment que c'est un receveur qui va être dominant dans la NFL pour longtemps. J'aime beaucoup ce qu'il a fait l'année qu'il a joué à LSU, parce que l'an dernier, il n'a pas joué. Il a pris l'année off. Mais je pense que c'est un talent d'une rare exception. Puis tu as Kyle Pitts aussi, là, qui est l'ailier rapproché avec l'Université de la Floride. Selon moi, c'est deux talents à leur position exceptionnelle. Juste te parler, tu me permets-tu de parler des receveurs
Bien sûr, je t'en prie. Ben oui, parce que cette année, il y a 3 receveurs qui pourraient être pris rapidement au repêchage.
Ouais, l'an passé, c'était une grande année de receveurs. Cette année aussi, mais ce que j'ai remarqué, c'est quand même impressionnant. Ça montre un peu à quel point, je pense, la position est également en train de changer un petit peu pour les receveurs. Dans le top 10 d'ESPN, il y a 9 joueurs sur 10 dans les receveurs qui sont listés, dans les premiers, qui sont listés à 6 pieds et moins. Les gars, ça, c'est un grand
c'est
changement.
Rare,
là.
Ça, c'est sûr.
Dans les 10 premiers, t'en as 9 sur 10 qui sont 6 pieds et moins.
Puis la moitié de ça pèse pas 200 livres.
À peu près, exact. C'est des marchands de vitesse. Donc, ça, c'est là que tu vois la place que la NFL fait vraiment aux receveurs intérieurs avec beaucoup, beaucoup de vitesse. Des gars qui sont capables de faire mal un secondeur ou un maraudeur que tu veux le mettre en un contre un, ça marchera pas, absolument pas. Ça prend vraiment un demi-défensif spécialisé sur lui en un contre un. Jamar Chase, pour moi, il va être solide vraiment à ce niveau-là. Le seul receveur qui est en haut de 6 pieds, c'est Terrace Marshall Jr. de LSU à 6 pieds 3.
Bon, Stéphane, toi, est-ce que tu es d'accord que les meilleurs joueurs, les deux meilleurs joueurs all around, pour prendre l'expression anglaise, c'est Jamar Chase et Kyle Pitts?
J'avais Jamar Chase en 3, personnellement. Moi, Kyle Pitts, ce serait vraiment le premier, mais encore là.
Ah oui, incroyable.
Kyle Pitts, un allié rapproché. Il y en a beaucoup qui se disent, voyons, un allié rapproché, tu peux pas mettre ça aussi haut, mais je pense que ça va être un exceptionnel. Là,
ah,
parce
oui.
que c'est pas seulement un allié rapproché qui va se pencher sur la ligne de mêlée, mettre sa main dans terre, puis faire ses tracés tout bonnement. Là. Il peut être déployé partout à l'attaque.
Exact.
C'est comme un receveur, un ailier espacé dans un corps de tight end, mais il court aussi vite qu'eux. Il est aussi explosif. Il est capable d'aller chercher, évidemment, avec sa taille, son gabarit. Là, on parle d'un 6 pieds 5, 245 livres. Évidemment que c'est une cible de choix dans la zone début. Il est capable d'aller chercher les passes contestées dans le trafic. Mais il peut courir aussi les longs tracés parce qu'il a la vitesse pour le faire. Donc, pour moi, ça devient une arme redoutable que tu peux utiliser à toutes les sauces. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'on a souvent halluciné sur des ailiers rapprochés là, haut de première ronde depuis plusieurs années. Puis, on dirait qu'on est souvent déçus. Là, que ce soit Jeremy Shockey, qui a eu une belle carrière, mais pas comme on pensait.
Au moins, lui, ça avait bloqué.
Kellen Winslow Jr., il y en a eu. Eric Ebron, dans les dernières années, il connaît une carrière correcte, là, mais c'est pas ce à quoi on s'attendait du tout. Donc, il y a juste ça, ce petit côté-là. Mais sinon, Kyle Pitts, pour moi, c'est comme l'arme redoutable que tu peux vraiment utiliser de toutes sortes de façons dans ton attaque, dépendant des plans de match, dépendant des adversaires. Donc, c'est un côté que j'aime beaucoup.
Mais ma crainte aussi, c'est que Kyle Pitts passe la première ou deux ans même à apprendre à bloquer. Là. C'est ça aussi peut-être qu'il va voir que c'est difficile dans la NFL d'arrêter TJ Watt. Là.
Ben oui, mais tu sais, c'est au collateur à l'attaque aussi qui va le déployer sur le terrain, de le mettre dans des situations gagnantes. C'est sûr qu'il faut qu'il améliore son blocage. Est-ce qu'il est si pire que ça? Il est pas... C'est pas la
on le voit pas. À chaque fois qu'on regarde on le voit jamais bloqué. En tout cas, moi,
c'est très rare. Puis exactement, les Gators faisaient une bonne job de l'utiliser à ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire attraper des ballons. Mais il est capable de bloquer. Je le comparerais un peu à Kelsey quand il est arrivé. Travis Kelsey quand il est arrivé avec les Chiefs. Il avait beaucoup de difficultés à bloquer. Puis ça s'est amélioré. Puis présentement, il est rendu un bon bloqueur.
Ouais. Il est dans les bons.
Faut y donner du temps. Ça sera pas sa plus grande force en arrivant, mais je pense qu'il y a une grande différence présentement à la position d'allié rapproché entre lui et le deuxième sur la liste. Tu comprends? Il y a une énorme différence. C'est ça qui fait qu'il est très intéressant pour les équipes. Ceci étant dit, je pense vraiment que la position la plus difficile de faire le saut entre le college et la NFL, c'est allié rapproché. Ça prend toujours un ou deux ans. C'est très, très rare qu'un allié rapproché a de l'impact immédiatement.
OK, mais disons qu'on termine sur le côté offensif avant d'aller en défense. Mais qu'est-ce que vous pensez de Penny Sewell, qui était supposément peut-être le premier show repêchage de 2021 il y a quelques mois, et puis que là, certains mock drafts le mettent 15, 16, 17, 18.
Ah, je serais surpris qu'il glisse autant que ça. C'est possible qu'il glisse à cause qu'il va probablement y avoir une ruée vers les corps arrière là, dans les 3-4 premiers rangs. Là. Dépendant si Atlanta garde son choix, s'il l'échange, etc. Mais Penei Sewell va rester là, dans les joueurs les plus convoités de cette QV-là. C'est un gars qui a 20 ans, donc très jeune, il y a encore de la place à amélioration. C'est pas comme s'il est parvenu à son top. En tout cas, je ne pense pas. Un gros bonhomme de 330 livres et plus qui se déplace très bien. T'sais, avec l'offensive d'Oregon, là, t'as pas le choix. Il y a beaucoup de passes voilées.
Il est très mobile.
Il y a beaucoup de passes voilées, des tactiques un peu comme ça où les joueurs de ligne offensive doivent se déplacer puis aller chercher leurs gars plus loin là, à d'autres niveaux sur le terrain que directement sur la ligne. Puis Sewell l'a bien démontré. Est-ce qu'il va avoir de la rouille parce qu'il a pas joué 2020? Peut-être, là. Tu sais, c'est pas garanti qu'il va être un partant de qualité de manière instantanée. Mais le plafond est tellement élevé avec un gars comme ça. Le potentiel est énorme. Moi, j'ai pas l'impression, là, qu'il va descendre. J'en ai vu, là, des mock drafts comme tu parles, Jean-Nic, là. Je sais très bien que t'as pas halluciné. J'en ai vu qu'il glissait. Personnellement, je serais extrêmement surpris.
De mon côté aussi.
Moi, j'aime... c'est mon numéro 2 dans mon top 10 hors QB, disons.
Moi, je l'ai 3. J'aime beaucoup Micah Parsons aussi, un secondaire de Penn State. Écoute, la fabrique à secondaire de la NFL, Penn State, ils en ont fait plusieurs à travers les années, soit Post-Lusty,
On dit de lui qu'il y a beaucoup de problèmes au-dessus des épaules. C'est pas en bas des épaules le problème.
Ouais, exact. C'est là que je me questionne. Mais athlétiquement, je peux te dire qu'il y a d'affaires sur un terrain de la NFL. Il est très athlétique. Puis comme beaucoup de secondaires qui ont passé par Penn State, il est très bon techniquement. Selon moi, s'il y a pas de problème en haut de la tête, c'est un plug and play dans la NFL. Il va avoir de l'impact dès sa première année. C'est un gars qui est honnêtement, c'est un général défensif comme tu veux de ton secondaire intérieur. Donc, ça va être maintenant à voir s'il va être capable d'être tranquille.
Ben poursuivons sur les joueurs en défense parce qu'on se dit souvent que les bonnes équipes en défensive en ce moment, ils ont des edge rushers, là, des gens qui mettent la pression sur le corps arrière. Ouais. Normalement, il y en a toujours un qui se pointe un peu, là, un gros guard, Devon Clowney, n'importe qui.
Un Chase Young l'an passé.
Ben, c'est ça. Puis là, cette année, écoute, tu regardes.
C'est plus tranquille. C'est plus d'incertitude.
À 28, 32.
Ouais, exact. C'est une meilleure QV pour les demi-défensifs, honnêtement, cette année. Je pense, entre autres, là, à Patrick Surtain de Sacken, qui est très, très solide. Caleb Farley aussi, qui a joué à Vitek. Ça, c'est des demi-défensifs. Je pense que ça va être des poules, tu sais. Tu drafts ces gars-là puis ils vont, tu sais, tu te poses pas trop de questions. Dans les edge, il y a un joueur, moi je pense, qui commence à prendre dernièrement, là, j'ai vu que il était en montée, c'est Grégory Rousseau. Non, il est pas québécois, les gars. Il a joué allié défensif à Miami. Il me fait penser un peu à Julius Peppers. C'est un grand joueur, 6 pieds 7. C'est rare que tu vois aussi grand sur les coins de ligne. Il y a beaucoup de potentiel, puis il y a encore beaucoup de place à mettre du poids, puis je dirais de la maturité physique sur son frame. Je pense que ça va vraiment là. Son plafond, lui, il est très élevé. Je pense qu'il est loin d'avoir atteint son plein potentiel. Puis moi, je pense que ça va être une option intéressante sur le coin de la ligne.
Ok, toi, Steph, qui tu vois en défense qui pourrait être ton coup de cœur si t'étais un manager de la NFL?
Ben mes premiers coups de cœur, on les a mentionnés, là, Parsons puis Surtain, mais sinon un demi de coin aussi. Johnny a parlé de Caleb Farley. Caleb Farley, ce qui fait peur, c'est sa blessure au dos, là. Ça, c'est le point d'interrogation dans son cas. C'est ce qui semble le faire glisser dans les classements parce que sinon, c'est tout un athlète. Mais J.C. Horn, un autre demi de coin là, qui va être repêché visiblement très tôt. Il était excellent, lui, là, pour jammer là, les receveurs sur le bord de la ligne de mêlée. Très physique au point où dans la NFL, ça va être à surveiller. Là. Il pourrait être la cible de quelques mouchoirs des arbitres en début de carrière. Il va avoir un ajustement, mais c'est un demi de coin là, que j'aime beaucoup. Puis le secondaire dont il va falloir apprendre à prononcer le nom correctement, Jeremiah
Owusu-Koramoah.
Là, lui, vraiment, là, c'est intriguant. Ah oui. Parce qu'on parle d'un gars de 215 livres. Ça, ce que ça veut dire, c'est que visiblement, il va être un joueur hybride. Les joueurs, les fameux joueurs défensifs hybrides à la mode actuellement dans la NFL, qui jouent un peu secondaire, un peu demi-défensif, qu'on envoie à toutes les sauces sur le terrain. Un gars qui a beaucoup, beaucoup de vitesse, mais à 215 livres, est-ce qu'il va se faire déplacer par les bloqueurs adverses? Ça reste à voir, mais c'est un joueur qui est franchement impressionnant, un gars de Notre Dame qui pourrait faire des dégâts vraiment dans la NFL.
OK, merci les gars. Et on parle depuis, je crois, 5-10 minutes des joueurs qui peuvent être repêchés rapidement, puis des meilleurs joueurs du repêchage cette année. Puis on oublie toujours que les running backs,
ouais,
c'est incroyable comment qu'il n'y a plus d'intérêt, en tout cas, où on peut tellement en trouver rapidement sur le marché des joueurs autonomes ou des joueurs qui sont pas...
Il y en a, selon moi, personnellement, il y en a trois qui ont une chance de sortir en première ronde, mais c'est très possible aussi qu'il n'y en ait pas un des trois qui sortent en première ronde. C'est vrai. On parle de Najee Harris, Alabama, ouais. Qui est assez complet, un gros gabarit, qui est capable de jouer très physique. C'est grandement amélioré aussi pour l'aspect receveur de passe là, dans la dernière année. Sinon, Travis Etienne, qui est probablement le plus explosif du lot, lui, quand il pogne l'extérieur, là, il va être très, très difficile à rattraper. C'est une menace de coup de circuit dès qu'il touche le ballon. Mais par contre, petit problème de fumble là, durant sa carrière collégiale, ça parle pas toujours aux équipes de la NFL.
Non, ça pardonne pas dans la NFL.
Ouais, c'est ça. Puis l'autre, c'est Javonte Williams de North Carolina. Si vous aimez les gars, les porteurs qui ont le feu au derrière, là, qui font du rentre dans le tas, qui sont capables de briser des plaqués, qui jouent avec beaucoup de hargne, je pense que c'est votre homme, ça. T'sais, on revient toujours aux mêmes exemples, là, un Marshawn Lynch, puis ces genres de gars-là. Mais Williams a peut-être encore plus d'explosion qu'un gars comme Lynch. Là. J'ai l'impression, lui, qu'il pourrait surprendre là, une fois rendu chez les points.
OK, Travis Etienne de Clemson. Je pense que c'est le plus polyvalent de la gang. Il débarquait à peu près jamais. C'est peut-être le seul questionnement. Est-ce qu'il a trop joué dans ses années à Clemson? Je pense encore, moi, qu'il reste beaucoup de bonnes années dans les jambes. Il me fait penser un peu à McCaffrey, honnêtement. C'est un gars qui est capable de tout faire sur le terrain avec beaucoup de vitesse. Moi, c'est un gars que je prendrais une chance dessus.
En tout cas, tu y vas pas mollo aujourd'hui avec tes comparaisons.
Ouais, mais ça veut dire qu'il me fait penser à lui. Ouais, je veux pas dire qu'il va devenir McCaffrey. Tu sais.
Il va meilleur que McCaffrey et Adrian Peterson réunis. C'est ce qu'on comprend. Hey, Jean, commence-moi donc ton mock draft. On y est, OK? C'est l'heure des prédictions, les gars. Je veux entendre votre mock draft. On va commencer. On va faire les 10 premiers choix d'après vous. Puis je vais vous demander aussi 5 choix qui vont être pris par des équipes, soit en première ronde ou soit dans les rondes subséquentes que vous aimeriez nous parler. Commençons, évidemment, avec le premier choix repêchage. Jean, qui tu vois partir en premier cette année?
Écoute, il n'y aura pas de surprise de mon côté. Ça va être Trevor Lawrence de Clemson.
OK.
S'il y a une chose qui est à peu près certaine dans le repêchage, c'est que ça va être lui qui va
faire. L'infographie de Jacksonville a déjà Trevor Lawrence dans ses dessins.
Il y a même des fans de Jacksonville parce qu'il vient de se marier, qui ont donné un cadeau de mariage déjà à Trevor Lawrence, ils ont récolté des choses comme 21 000 $
Ouais, il peut commencer à magasiner sa maison à Jacksonville, je pense. Steph, même chose pour toi?
Ouais, ben moi, je dis souvent aux lecteurs dans le journal, ça m'est arrivé souvent d'écrire, ça devrait se passer de telle façon, mais gagez pas votre maison non plus là-dessus. Là, gagez-la votre maison, là, ça va bien aller. Il n'y a pas de trouble, c'est Trevor Lawrence qui va être premier, c'est sûr.
OK, en deuxième, les Jets de New York, qui ont terminé à se rendre repêchage et qui choisissent deuxième. Ils ont espéré longtemps finir bon dernier, mais Adam Gase a réussi à leur gagner quelques matchs. Qui vont repêcher en deuxième? Vas-y donc, Stéphane.
Ben, tu sais, le bruit qui court partout, c'est Zach Wilson. Ça semble être vraiment l'homme de leur convoitise, disons-le comme ça. Là. À ce stade-ci, moi, je prendrais pas de chance. Là. Tu veux pas rater ton coup là, dans les premiers choix. Le troisième va être un peu plus touché là, parce que c'est San Francisco et on sait pas exactement où ils s'en vont. Mais Zach Wilson avec les Jets, je pense qu'à ce stade-ci, c'est pas mal coulé dans le béton.
OK, Jean?
Écoute, est-ce que tu me demandes ce que moi je drafterais ou
Non, c'est l'équipe... notre mock draft. Là, c'est vraiment ce qui va se passer.
OK, ça va être la même chose. On va prendre le petit gars de BYU, Zach Wilson.
OK, troisième, Jean. Qui les 49ers, pour après avoir fait un échange assez important avec les Dolphins pour aller chercher le troisième choix au repêchage, avec d'ailleurs, qui en est sorti de gagnant avec cet échange-là? Mettons qu'on fait une petite parenthèse là, entre les Eagles, les Dolphins et les 49ers, un gros échange qui a eu lieu avant le repêchage.
Ben honnêtement, c'est pas un mauvais échange pour aucune des équipes, à mon avis. Tu sais, les Niners avaient besoin de bouger s'ils voulaient avoir un carrière de concession. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'échange pour les Dolphins. Trois choix de première ronde, je veux dire.
Ouais, moi aussi.
Ils sont allés chercher encore du capital avec une équipe qui est loin d'être mauvaise. Ça va amener de la profondeur aux Dolphins, c'est sûr et certain. Moi, je pense que si j'avais à voter pour une équipe qui a gagné, c'est Miami.
Ton troisième choix, ce serait qui? C'était les 49ers. Disons, qu'est-ce qui va se passer?
Je sais que tout le monde parle que c'est Mac Jones qui va sortir avec les Niners, mais ça me rentre juste pas dans la tête, les gars. Moi, j'ai Justin Fields qui va sortir avec les Niners, même si Trey Lance n'a pas l'air d'être des plans du tout de Kyle Shanahan. Donc, je vais y aller avec Justin Fields, qui pourrait aussi être un bon fit avec San Francisco.
Steph?
Je vais être aussi têtu que toi. J'ai Justin Fields aussi. Je suis pas capable. Ça... Mac Jones, oui, première ronde. Puis oui, potentiellement un très bon carrière dans la NFL. Mais troisième au total, je vois pas comment San Francisco aurait donné tout ça pour aller s'avancer aussi haut pour prendre Mac Jones, sachant qu'il aurait pu être disponible, je sais pas, moi, 7, 8, 9, ça aurait coûté beaucoup moins cher. Alors que Fields, je le vois vraiment, plein d'autres équipes s'avancer au rang numéro 3 pour aller le chercher. J'ai l'impression qu'au final, les Niners vont ramener tout le monde sur terre puis repêcher le choix qui est le plus safe en Justin Fields.
OK, disons qu'il n'y a pas d'échange et qu'Atlanta conserve son choix repêchage au quatrième rang. Qui repêche-t-il, Steph?
Ça, c'est embêtant parce que c'est là vraiment que ça commence. On le sait que les trois premiers, ça va être trois carrières. Atlanta, ils ont Matt Ryan qui a 36 ans, qui pour l'instant doit continuer d'être leur carrière parce que ce serait tout simplement trop coûteux, point de vue plafond salarial, de le libérer, là, que ce soit cette année ou même l'année prochaine. Donc, on sait qu'il est là en poste pour encore un petit moment. Mais il y a le propriétaire Arthur Blank qui, semble-t-il, est en amour avec la cuvée de carrière actuelle. Puis lui, ce qu'il fait valoir à ses hommes de football, c'est quand est-ce qu'on va encore repêcher quatrième, nous autres? C'est pas supposé d'arriver souvent qu'on a cette opportunité-là. Donc, on dit, il impose pas le choix, il impose pas la vision, mais tu sais, quand un propriétaire fait ça, des fois c'est subtil, mais ça finit que tu t'orientes un peu vers sa vision. J'ai hâte de voir si les Falcons vont s'enligner comme ça. Moi, je dis qu'ils vont y aller avec Kyle Pitts, qu'ils vont se laisser encore du temps pour se dénicher un carrière du futur. Ça peut être dans les rondes subséquentes ou dans les années qui s'en viennent. Kyle Pitts, qui va être une arme vraiment intéressante pour eux, qui peut encore donner une autre arme de plus à Matt Ryan, qui en manque clairement pas dans le moment. Là. Ça va être Kyle Pitts.
Jean. Là, on prend comme considération, on considère que...
Pas d'échange.
Pas d'échange, parce que moi, je pense vraiment que les Falcons vont échanger leur choix. Mais je vais y aller avec Kyle Pitts aussi. Ça fait longtemps que les Falcons se cherchent, je pense, un allié rapproché là, de grande, grande qualité. Je pense qu'ils cochent toutes les
Mais dans votre tête, il y a une équipe qui va descendre et qui va aller chercher Trey Lance s'il est encore disponible ou Justin.
Atlanta a carrément la situation idéale. C'est ça. C'est ça. Dans une razzia de corps arrière comme ça, il y a un club qui veut devancer, je sais pas, moi, Détroit en 7, Caroline en 8, Denver en 9. C'est tous des clubs potentiellement intéressés à des corps arrière. Tu t'en vas chercher le choix d'Atlanta. Tu sais, honnêtement, là, ça pourrait devenir une mine d'or pour les Falcons qui ont plusieurs lacunes à combler.
Exact.
T'sais, c'est ça aussi qu'il faut que tu considères dans l'équation. Est-ce que tu vas chercher un Pitts qui t'améliore vraiment là en attaque potentiellement, du moins? Ou tu dis, ben j'échange ce choix-là contre un autre choix de première ronde, un choix de deux, puis bon, peu à peu, je reconstruis un alignement intéressant. Ça va être le dilemme à répondre, okay, pour les Falcons.
Si les Falcons repêchent un carrière, je pense vraiment que ça va être Trey Lance de mon côté s'il est disponible, parce que ça ferait un peu de sens d'y faire un an derrière Matt Ryan. Il est pas nécessairement prêt peut-être encore tout de suite pour la NFL. Donc, si c'est là qu'ils veulent s'en aller, mais moi, je suis convaincu qu'ils vont échanger leur choix.
OK, continuons avec les Bengals de Cincinnati. Qui les Bengals ont besoin d'aller chercher pour renforcer leur équipe?
OK, ben là, honnêtement, les gars, je veux parler des Bengals, là, parce que si les Bengals font un autre choix que ça, honnêtement, je me pose vraiment de sérieuses questions sur la capacité de dirigeant que les Bengals ont. Ils peuvent pas aller avec autre chose qu'un joueur de ligne à l'attaque. Puis on en a parlé, OK, peut-être que si t'aimes pas Penny Sue Wells, ça peut être quelqu'un d'autre, là. Mais faut que tu ailles chercher un joueur de ligne à l'attaque. Parce que là, je vois beaucoup là, il y en a beaucoup dans les mock drafts
qui met Jamar Chase.
Jamar Chase, parce qu'il a joué évidemment avec le même carrière à LSU. Ça ne fait pas de sens. Faut que tu protèges ton investissement. Qu'est-ce que ça va te prendre de plus? Qui scrape l'autre genou? Tu sais, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Bloqueur, Oregon, Penny Sewell, les Bengals. On va voir s'ils sont sérieux comme organisation.
Ouais, j'ai Sewell aussi. Là, j'aimerais ça qu'on chicane un peu, mais à date, ça suit la logique. Tu sais, Sewell, il y a une théorie qui circule à l'effet que, bon, les Bengals, il y a quoi, 2 ans, ont drafté Jonah Williams comme bloqueur, qui est pas nécessairement un mauvais choix. Là, il a été blessé, c'est toujours bien pas de sa faute. Il peut encore se développer. Puis là, ils disent, ouais, ils ont été chercher aussi Riley Reiff, un bloqueur sur le marché des agents libres. Je peux vous dire que, ouais, comme partisan des Vikings, je l'ai vu à l'œuvre, Riley Reiff, là, puis c'est pas la solution pour t'assurer que Joe Burrow va finir sa carrière là, debout. Faut pas le voir comme ça. Moi, je le vois comme un move de profondeur. Tu peux, à la limite, amener Sewell tranquillement en disant, ben écoute, on a Reiff pour garder le fort au début de l'année dans les premiers matchs, puis tranquillement, on introduit Sewell, mais je le vois tout simplement pas comme une solution qui permet aux Bengals d'ignorer ce besoin criant-là, tout simplement. Donc, Penny Sewell, 5e choix, Bengals.
OK, sinon, bon, ça peut être Rashawn Slater de Northwestern, qui est un autre joueur de ligne à l'attaque. Un peu différent, mais lui, c'est un pas fin. Il aime ça brasser. Ça pourrait être un choix aussi qui serait solide pour les Bengals, parce que tu peux le bouger comme garde aussi, j'ai l'impression.
OK, là maintenant, on a fait le top 5. Là, je vais vous demander 5 autres choix dans votre boule de cristal que vous croyez qu'une équipe dans la NFL devrait repêcher, soit en première, soit en deuxième ou dans les rondes subséquentes pour améliorer leur équipe. Steph, as-tu quelqu'un à nous proposer?
Ben écoute, je vais y aller avec... j'ai l'impression que, tu sais, là, il y a une ruée vers les corps arrière puis que ça va profiter à certains clubs. Je pense que on parlait de Micah Parsons tantôt, l'excellent secondaire de Penn State. J'ai l'impression qu'il pourrait glisser jusqu'aux Giants qui ont le choix 11, si ma mémoire est bonne. J'ai pas l'ordre devant moi, là, mais j'ai l'impression qu'un joueur comme ça, normalement, toute autre année où il y a 2 ou 3 carrières choisies en première ronde, un Micah Parsons ne glisse pas. Mais cette année, dans le contexte actuel, ça pourrait profiter à un club comme les Giants qui aurait franchement besoin d'un général défensif comme ça. Donc, allons-y comme ça, comme prédiction pour ma première shot.
OK. Jean?
Écoute, moi, je vais y aller avec les Cowboys qui sont en 10. Quiconque a vu jouer les Cowboys l'an dernier peuvent témoigner, merci, je testify, c'est un bon vieux anglicisme. Peuvent témoigner que
leur... Ils se font traverser la défense.
Ouais, leur tertiaire est pas super incroyable. Donc, pour moi, je vais y aller avec un demi de coin. Je pense qu'ils en ont besoin du côté des Cowboys. Puis je vais y aller avec
Patrick Surtain.
Caleb Farley.
Ah, pour vrai?
Virginia Tech.
Ah ben. OK, c'est bon. Moi, j'aurais vu Patrick Surtain.
Qui est capable de jouer de la zone, qui est capable de jouer du man. On parle de... Stéphane en a parlé tantôt, il y a une blessure au dos. Mais si ça, c'est correct, je pense vraiment que ça va être un demi-défensif de grande qualité dans la NFL.
OK, un troisième joueur, Steph, qui pourrait nous surprendre
Ben, écoute, on a parlé beaucoup de Trey Lance tantôt. Où c'est qu'il va aboutir? Je le vois au rang numéro 9 avec les Broncos qui ont besoin d'un électrochoc. Je comprends qu'il y a Drew Lock, que c'est peut-être injuste en quelque sorte parce qu'il a été repêché, quoi, en 2018. Il a presque pas joué à son année recrue. Il a eu le poste l'an passé, mais écoute, l'échantillon est très mince. Je comprends tout ça, mais dans la NFL d'aujourd'hui, faut que ça bouge et vite. Pourquoi? Parce que les corps arrière, tu dois profiter de leur contrat recrue qui fait en sorte que tu les payes des peanuts pour investir ton argent partout ailleurs sur l'alignement. C'est cette fenêtre-là dont tu dois profiter de plus en plus pour te monter une équipe championne. On l'a vu avec quelques équipes dans les dernières années, là, que ce soit les Chiefs avant que Mahomes signe son méga contrat. Regardez les deux présences au Super Bowl des Seahawks. C'est dans les premières années de Russell Wilson, alors qu'il coûtait à peu près rien. C'est comme ça souvent là, qu'on bâtit une équipe actuellement. Donc, j'ai l'impression que Lance pourrait être un électrochoc à Denver par son style très athlétique, très différent de ce que Drew Lock a à offrir.
OK. C'est bon, parce que c'est intriguant parce que Drew Lock, les Broncos semblaient avoir décidé qu'il serait partant la prochaine année. Mais en effet, si on a la chance d'avoir un des top 5 qui glisse jusqu'en 9e position, sans changer leur choix, peut-être qu'ils vont agir. OK, quatrième joueur, Jean, qui pourrait être repêché plus tard dans le repêchage, qui est intéressant à suivre.
Ouais, ben écoute, moi je vais y aller avec les Pats, les gars, parce que écoute, ça reste que c'est une équipe que les fans de la zone payante suivent avec attention. Je pense que les Pats, ils vont aller chercher le choix numéro 4 des Falcons. Ils vont repêcher Trey Lance avec.
OK. Fait que toi, tu voyais Mac Jones dans ta soupe, mais finalement, le remplaçant de Tom Brady, ça va être Trey Lance.
Je pense vraiment que c'est un bon fit avec les Pats. C'est un gars qui est athlétique, qui est capable de jouer plusieurs systèmes. Il a joué.
Apprendre derrière Cam Newton, ce serait pas une mauvaise chose non
exact.
Plus.
Exact. Une année facile d'apprentissage. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress. Moi, je pense que c'est le gars que je pense que les Pats ont ciblé.
Mais ça, c'est vrai que les Pats ont tout fait en ce moment pour repêcher un joueur, un corps arrière, et le mettre dans un contexte parfait pour apprendre puis pour avoir une bonne carrière à partir de sa deuxième année.
Ouais, puis Trey Lance, comme j'ai dit, aussi son éthique de travail, moi, je pense que c'est quelque chose qui parle à Bill Belichick. Un corps arrière qui veut, et dans les deux cas, soit Mac Jones ou Trey Lance, les deux cochent cette catégorie-là. Moi, je pense que c'est vraiment le gars qui ont dans leur vision. Moi, je pense qu'ils vont aller chercher cette carrière-là, puis ça va être ça.
OK, c'est intéressant. Dernier joueur, Steph, un cinquième joueur qui pourrait être repêché et qui serait à suivre lors du repêchage du jeudi.
Là, vous allez faire un moyen saut, là, tournez vos listes, parce que je vous amène au 129e choix, les gars.
Ah, oh, est-ce que 129e? Tu me parles d'un Québécois?
Pourquoi un 129e choix, quatrième ronde, Seahawks de Seattle, Benjamin Saint-Just? Écoute, un Québécois là, qui serait repêché en quatrième ronde, c'est plutôt rare. Il y en a même qui le voient plus haut que ça, troisième ronde. J'ai vu Mel Kiper dans un repêchage simulé l'envoyer aux Bills en deuxième ronde. Donc, c'est clairement pas là, une vision de l'esprit là, que j'ai. C'est un gars qui va être repêché, c'est sûr et certain, il reste à savoir où. Puis pourquoi Seattle? Ben écoute, c'est un peu le style de demi-de-coin qui ont souvent préféré les Seahawks. Ils aiment leurs demi-de-coin grands avec de longs bras, qui sont capables de jouer physique. C'est le style de Benjamin. Ce sera un bon fit à première vue. La chose là, qui me fait peur par rapport à cette prédiction-là, où je m'amuse un peu honnêtement, là, c'est que Seattle n'a vraiment pas beaucoup de choix au repêchage cette année. Sauf erreur, ils ont 4 choix. Donc, est-ce qu'ils vont se tourner là, vers un gars de chez nous pour combler une de leurs lacunes? On sait qu'ils ont perdu aussi Shaquille Griffin sur le marché des agents libres. Donc, il va falloir qu'ils regardent la position de demi-de-coin. Ce serait intéressant, honnêtement, de voir ça. Ce serait même captivant de le voir se retrouver à Seattle. Puis il y aurait franchement un rôle à aller chercher là-bas.
OK, merci les gars. C'est intéressant. Donc, le repêchage, ça commence jeudi, hein? Jeudi le 28 avril. Si ma mémoire est bonne, corrigez-moi si je me trompe, j'avais cette date-là.
Ouais, c'est jeudi, la première ronde.
3 jours.
Jeudi, la première ronde, vendredi soir, les rondes 2 et 3, puis samedi après-midi, les rondes 4 à 7.
Non, jeudi exact. Le 29. Je me corrige, donc c'était bien jeudi le 29 pour le repêchage de la NFL. Ben, ça va être à suivre. Merci les gars, restez là parce qu'après la pause, ben, c'est notre quatrième essai. On va y aller avec des questions en rafale. Bougez pas. On est de retour à la zone payante. Jean-Nicolas Gagné en compagnie de Stéphane Cadorette et Jean Carrier. C'est le quatrième essai, les gars. On va y aller avec des questions en rafale, si vous le voulez bien. On va y aller avec... on va revenir un peu dans le temps cet été. On ne s'est pas encore parlé depuis quelques semaines. Alors, on va y aller avec les nouvelles. Qui a été le joueur qui a signé la meilleure entente ou quelle équipe a signé le meilleur joueur autonome cet été?
Ben, écoute, de mon côté, moi, je pense que le MVP des joueurs autonomes de cette période-là, c'est Tampa Bay, c'est les Bucks. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé leur équipe. Ils ont gardé le cœur de leur équipe. Que ça soit Shaq Barrett ou le... Écoute, il y en avait beaucoup à signer. Puis honnêtement, les joueurs importants, ils sont de retour avec Tampa Bay. Puis c'est ça qui fait que ça va être une équipe qui est favorite présentement pour remporter puis faire un repeat là, des champions du Super Bowl. Le GM, pour moi, le directeur gérant des Bucks, a fait ce qu'il avait à faire. Un peu comme celui des Chiefs l'an dernier, qui avait gardé aussi son noyau. Ça lui a porté fruit. Ils ont pas gagné l'an dernier, mais ils se sont quand même rendus au Super Bowl, les Chiefs. Fait que pour moi, c'est un peu là, le MVP. Mais sinon, il y a quand même des équipes qui se sont démarquées. Je pense les Cards avec J.J. Watt, évidemment. Je pense qu'il faut les nommer aussi dans les gagnants. J'aime beaucoup certaines signatures. J'aime beaucoup Curtis Samuel avec l'équipe de Washington. C'est un gars qui est dynamique, qui va être utilisé à toutes les sauces. C'est un gars qui est très, très polyvalent. Corey Davis, finalement, les Jets ont un receveur qui a de l'allure. Tu sais, ça aussi, ça va aider. Peu importe qui va arriver là à position de pivot. Puis j'aime beaucoup Bud Dupree qui s'en va avec Tennessee parce qu'il avait vraiment besoin de mettre de la pression sur le carrière des Titans.
Steph, de ton côté?
Ben, écoute, la signature, moi, que c'est pas populaire de dire ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué les Giants d'avoir embauché Kenny Golladay parce que c'est un gros contrat, là. On parle de 4 ans, 72 millions. C'est pas mal de bidou. Mais moi, j'aime ça. Pour la simple et bonne raison que tu dois absolument aller au fond des choses avec Daniel Jones. Est-ce que c'est ton corps arrière de franchise? Est-ce qu'on a tout fait pour l'aider? Il y a des équipes, des fois, où on sait pas trop le corps arrière. Tu sais, Sam Darnold avec les Jets, exemple. Est-ce que c'est lui qui est pas à la hauteur des attentes ou c'est parce qu'il y avait pas de receveur, il y avait pas de ligne offensive? On sait pas trop, c'est un peu flou. À New York, ben là, on a été y chercher une véritable arme redoutable. Tu sais, c'est un receveur qui a produit beaucoup dans les dernières années à Détroit. Donc, je pense qu'on met toutes les chances du côté de Daniel Jones pour que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ben t'as le cœur net, t'as l'esprit clair avec ça. Tu sais qu'il faut que t'ailles dans une autre direction. Donc, pour cette raison-là, je pense que c'est un geste qui fait du sens.
Est-ce que Carson Wentz va avoir une rédemption à Indianapolis?
Ben, s'il y en a pas, honnêtement, il y a un problème parce qu'il est dans la meilleure situation possible pour le faire. Il tombe dans un club, moi je pense qu'il va se battre pour sortir de la conférence AFC. Il tombe avec son ancien commentateur à l'attaque, comme entraîneur-chef maintenant avec les Colts. Moi la réponse c'est oui. J'ai confiance en Carson Wentz, je pense que ça demeure un bon carrière. Je pense que l'an passé c'était peut-être une anomalie. Je pense qu'il va retomber dans ses pantoufles, il va être un peu plus confiant. Il cassera pas rien, mais il va être nettement meilleur, puis il va rebondir.
Ouais, Jean a pas mal bien décrit la situation. Il tombe dans une équipe qui est aspirante. T'sais, c'est plus les Eagles où il y avait tellement de blessures puis de morceaux perdus à gauche, à droite. Il y a une grosse ligne offensive à Indy, là, donc il devrait être bien protégé. Par contre, ils ont perdu un gros morceau à Anthony Costanzo, le bloqueur à gauche qui part à la retraite. Ce sera pas facile à remplacer. Là. C'est beau là, dire « Ah, il y a le repêchage », mais c'est un coup de dé. Tu peux pas dire avec certitude « Oui, il repêche tel joueur, donc Costanzo est remplacé. » Ça me fait peur de ce côté-là. Il y a un groupe de receveurs intéressant, là, mais pas extraordinaire. Mais il était brisé l'année passée. Carson Wentz, là, il était carrément hésitant. Il avait pas confiance en ses moyens. Je peine à croire que tu peux reconstruire une confiance aussi rapidement. Donc, pour moi, j'ai l'impression que non, Carson Wentz, au final, ce sera pas la réponse attendue à Indianapolis. J'ai l'impression qu'il va connaître une saison correcte. Un peu à la Philip Rivers l'an passé, il a pas connu une mauvaise saison avec les Colts, mais il a rien cassé non plus. Puis je pense que le poste de corps arrière va demeurer le gros point d'interrogation concernant cette équipe-là pour la prochaine saison morte.
Qu'est-ce que vous pensez d'Aaron Rodgers à l'animation de Joe Pardy?
C'est une machine. Moi, j'ai bien aimé. Très, très bon. Moi, c'est une émission que j'aime beaucoup, Joe Pardy. Je l'écoute aussi, pas aussi assidûment qu'Aaron, mais de temps en temps, quand il n'y a absolument rien, puis je veux me challenger un peu, pourquoi pas? Mais moi, je l'ai trouvé très naturel, honnêtement.
Il s'assure une deuxième carrière, peut-être?
Peut-être, effectivement.
Et il parle même de continuer dans ce rôle-là en jouant au football. C'est ça son ambition, là, lui, parce qu'il sait qu'il peut pas dire, ben, je vais laisser la job à un autre, puis je reviendrai dans quelques années quand la porte sera ouverte. Ça peut prendre 30 ans, la prochaine porte. mais non, je sais pas s'il peut réaliser ça. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de shows de Joe Pardy qui sont enregistrés sur quelques jours seulement. Donc, c'est un travail très intense de ce que j'ai lu comme animation, mais en un court laps de temps. Donc, ça n'a pas nécessairement un gros impact sur sa cédule football, mais non, reste à voir.
C'est toute une distraction.
C'est quand même une bonne gymnastique.
Ouais, c'est une bonne distraction, effectivement.
Franchement, là, s'il est capable de faire ça les deux puis amener son équipe encore en série aussi loin, ça serait surprenant, mais ça serait tout à son honneur. OK. Dernière question, les gars. Quel move a été sous-estimé cet été dans la saison morte qui pourrait améliorer une équipe?
Moi, j'ai le goût d'y aller avec les Bruns de Jean Carrier. J'adore ce qu'ils ont fait, les Browns. Puis là, tout le monde parle de Jadeveon Clowney. Moi, c'est pas ça. C'est John Johnson, le maraudeur, puis Troy Hill. Deux membres qui étaient très, très importants dans l'excellente tertiaire des Rams. Ils ont fait du solide boulot l'année passée. Troy Hill est peut-être moins connu. C'est un demi de coin qui évolue, surtout à l'intérieur. Donc, on parle un peu moins de ces gars-là, mais ils ont un rôle extrêmement important parce que les receveurs insérés, les ailiers insérés sont de plus en plus en demande dans la NFL. On utilise de plus en plus des 7 à 3-4 receveurs. Donc, Troy Hill va rendre de fiers services aux Browns. Puis John Johnson, c'est le maraudeur qui était le plus polyvalent sur le marché. Peut jouer près de la ligne de mêlée, peut jouer en profondeur, peut blitzer. Il va rendre de fiers services aux Browns qui avaient un gros besoin d'aide en défensive contre la passe. Donc, pour moi, là, ils ont la palme d'un gros move dont on parle très peu là, avec ces deux gars-là.
De mon côté, je vais y aller avec les gros bonhommes qui ont souvent tellement peu d'amour du public. Je vais y aller avec les Kyle Shanahan et les Niners de San Francisco qui sont assurés d'avoir une autre bonne ligne à l'attaque. Sont allés chercher, ils ont signé Trent Williams à fort gros prix. Mais je pense que c'est ça que tu avais besoin si tu voulais le garder.
Il s'en allait à Kansas City, hein, s'il revenait pas à San Francisco. Donc il y avait pas le choix d'appuyer sa gâchette
aussi. Exact. Mais le choix, moi, je pense, qui est un peu passé sous silence, sont allés chercher à Alex Mack. Des Falcons, qui a déjà joué sous Shanahan, donc il connaît très bien le système. Il a 36 ans, ils l'ont pas signé très cher. Moi, je pense qu'il est encore bon pour un ou deux ans. Il va solidifier la ligne à l'attaque. Ça va être le capitaine. Évidemment, le centre, c'est tellement important pour une ligne à l'attaque. Puis on sait à quel point la ligne à l'attaque dans la NFL, c'est important, mais encore plus, je pense, pour les Niners, parce qu'ils aiment ça courir le ballon. Puis je pense qu'ils se sont arrangés pour être de retour au top dès l'an prochain. C'est là que ça se gagne dans la NFL. C'est dans les tranchées, les gars.
Les Steelers qui signent Tomlin pour une autre extension, est-ce que ça, c'est un...
Ben, c'est pas une grosse nouvelle comme telle parce que c'est prévisible. Les Steelers gardent leur coach pendant 38 ans. mais non, c'est mérité. Je pense qu'il y a Tomlin, ce que j'ai aimé dans les dernières années, même si les Steelers ont pas nécessairement été ultra dominants, c'est qu'il a gardé le navire à flot malgré toutes sortes d'épisodes dramatiques, que ce soit avec Antonio Brown, que ce soit avec Le'Veon Bell.
Juju l'année passée.
Ouais, ça a été compliqué là beaucoup. Va falloir que les Steelers se recentrent à être une équipe un peu plus profil bas, comme ils ont toujours été. C'était pas une équipe de diva par le passé, non, les Steelers. Ça fait drôle de les voir devenir comme ça, mais malgré tout, Tomlin a navigué là-dedans, puis les Steelers continuent de produire de bons joueurs. C'est pas une surprise pour moi qu'on le ramène là, pour 3 autres années. Puis tu veux pas être là avec un coach qui est la fameuse expression « lame duck » en anglais,
ouais,
là, qui est à sa dernière année de contrat, puis que tu sais pas trop, les joueurs, ils savent pas...
Le seul petit bémol dans le cas des Steelers, puis de leur entraîneur-chef, moi je l'aime beaucoup, c'est un player's coach. Tu le vois que les joueurs, je pense, l'apprécient beaucoup. Mais la seule chose, c'est que dans les dernières années, les Steelers, leur fin de saison ont vraiment fini en queue de poisson. Et on pense juste à l'an passé face aux Browns. Ils ont été horribles lors du dernier match. Et les années subséquentes également. Donc, c'est le seul petit bémol qu'il faut faire attention. Sinon, pour moi, c'est mérité. Il n'y a pas de problème.
OK, question quiz.
Oh.
Je sais que vous êtes ennuyé.
Ouais, on va être rouillé, là.
Deux équipes se sont fait retirer un choix au repêchage pour le repêchage de 2021.
Ah.
Quelles sont ces deux équipes qui se verront privées dans un cas de le choix de troisième ronde et dans l'autre un choix de septième ronde?
Ah, là, j'ai aucune idée. Ça m'a échappé.
Mais pense à une équipe qui est reconnue. Non, les Raiders, ça a été annulé. Les Raiders en avaient un qui était retiré pour le protocole COVID, mais ils ont été retirés. Pensez à une équipe
déjà,
qui triche souvent.
Qu'est-ce qu'ont fait, les Patriots?
Ah, les Pats?
Oui, les Pats. Qui, ça, c'est l'histoire du filmage de
oui,
sur les lignes de côté
avec
les Bengals.
OK, c'était cette année, ça, oui, c'est vrai.
Puis, ouais, exact, le match entre les Bengals puis les Browns en 2019. Le match qui avait eu lieu, mais leur choix au repêchage qui leur a été retiré, c'est le choix de 2021. Et l'autre équipe, c'est les Vikings du Minnesota.
Oh, ton club, Steph,
ah, ben,
en plus.
Ah, ben, comment ça, donc?
Violation du cap salarial en 2019
avec un joueur
du practice squad.
Ouais, ça, c'est des... ça coûte cher, là, je trouve, comme violation, ça.
Ouais.
Je l'avais complètement oublié, celle-là. Merci de le rappeler à ma triste mémoire.
Et l'équipe qui s'est fait retirer le plus souvent des choix au repêchage pour de la tricherie ou de la violation de règlement, je vous le donne en 1000. Les Pats.
Je suis encore avec les Pats.
5 fois depuis le début de l'histoire du repêchage. Et j'ai regardé, Steph, les Seahawks cette année, ils ont 3 choix.
Ouais, 3. Je pensais que c'était 4 tantôt. C'était déjà maigre, mais ça s'annonce. Tu peux pas ben rater ton coup avec 3 choix.
Non,
mais les Seahawks, écoute, ils vont manœuvrer. Là, c'est certain qu'ils vont essayer d'aller...
Écoute, un autre place pour notre Québécois, Benjamin Saint-Just, là, moi, je pense que les Bears, même si ça n'a pas sorti, je trouve qu'il fit très bien avec les Bears de Chicago.
On va voir ça. En tout cas, on a bien hâte de suivre le repêchage. C'est la semaine prochaine. Parlez-nous, écrivez-nous sur les réseaux sociaux. On est hâte, on aime toujours ça vous lire. Et restez là, parce qu'après la pause, ben c'est pas parce qu'on est en hors-série ou on fait un spécial de la zone payante qu'on n'a pas notre chronique au bar. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa. De retour à la zone payante, le hors-série sur le repêchage de la NFL. Et on continue nos traditions à la zone payante et on y va cette semaine avec une autre chronique au bar où on punit des gens pour leur comportement erratique ou autre. Qui, Jean, as-tu envie d'envoyer au bar cette semaine?
Ben écoute, envoyer Watson, c'est même trop évident.
Ah, pauvre Dishon, non.
Pour l'ensemble de l'œuvre, on va attendre de toute façon. Moi, j'envoie Nick Sirianni au bar. Puis c'est un commentaire très, très récent. Lui, il a dit que...
Mais là, il va falloir que tu me dises qui est Nick Sirianni.
C'est l'entraîneur-chef des Eagles.
Ah, tu vois, ça m'a...
Le nouvel entraîneur-chef des Eagles. Lui, il vient de mentionner que pour lui, Jalen Hurts, il donne pas le poste de carrière numéro 1 à Jalen Hurts. Il faut voir qu'il se batte pour l'avoir. C'est pas clair pour lui. Là, ça vient relancer un peu qu'est-ce que les Eagles ont fait. Vont-tu vraiment prendre... Oui, il vient de le dire.
Mais non.
Il l'a dit c'est aujourd'hui même. Honnêtement, comment semer le doute, dans la tête de ton jeune carrière, Jalen Hurts? Comment aliéner tes partisans, tes propres partisans, avant même d'avoir coaché un seul match? Je ne comprends pas ça. Souvent, les entraîneurs-chefs vont dire ça. Oh oui, on veut la compétition interne, mais écoute, c'est pas Joe Flacco qui va challenger Jalen Hurts.
J'espère que non pour les Eagles.
Non, c'est un commentaire que je trouve complètement stupide. Puis pour cette raison, ben écoute, je condamne Nick Sirianni, avant même d'avoir coaché un seul match comme entraîneur-chef dans la NFL, à se taper quelques hurricanes, les gars. Un hurricane, c'est un drink classique, la tempête, drink très populaire en Louisiane. 4 onces de rhum, jus de lime, jus d'orange, sirop, fruit de la passion, grenadine. Il va être de bonne humeur après, puis il va arrêter de dire des niaises.
Hey, je viens de lire sur Nick Sirianni, qui a déclaré que quand il rencontre des prospects pour le draft...
Oui, il joue à roche-papier-ciseau.
Il joue à roche-papier-ciseau pour tester leur niveau de compétitivité.
Ouais. Non, c'est...
Bon. Ça part bien. Mais c'est surtout aussi, les gars... Qu'est-ce que les Eagles ont fait aussi? Ils ont reculé dans le draft? Ça serait pour repêcher un carrière? C'est quoi cette histoire-là? Je veux dire, c'est complètement loufoque. Je pense que ça a dû lui échapper un peu, là. Je peux pas croire. Donc, pour ça, je condamne M. Sirianni à un hurricane.
Puis un roche-papier-ciseau avec le barman. J'attends.
Pour le prochain.
Pour le prochain. Aïe, aïe, aïe. Ça se peut pas être bonne, celle-là. OK, Steph, qui t'en va au bord?
Ah ben là, moi, ça va être un genre de bar virtuel parce qu'ils vont être trop nombreux. J'en vois une bonne partie de la twittosphère au bar. Tu sais, les gens sur Twitter qui se transforment en tribunal populaire. La semaine passée, on a vu des images circuler d'un pauvre monsieur qui avait été tabassé apparemment dans un bar par supposément Aaron Donald, l'excellent plaqueur des Rams qui a plus besoin de présentation. Donc, sur Twitter, ça a pas été long, on s'est enflammé, bon, un autre bum, puis c'était sûr qu'il y avait quelque chose avec lui, puis il est sa sauce, puis etc., 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 pour finalement qu'on apprenne quelques jours plus tard que le type battu en question s'est excusé, il a dit que c'était pas du tout Aaron Donald, que ça avait été confirmé par évidence vidéo, donc c'est pas comme s'il y a un deal en dessous de la table entre des forces obscures là qui ne veulent que le mal de la planète. C'est vraiment de l'évidence vidéo qui montre qu'Aaron Donald n'était pas impliqué du tout dans cette espèce de scène loufoque-là. Tout ça pour dire qu'on va trop vite au jugement sur Twitter. On peut pas condamner des gens comme ça. Puis ce qui est dommage, c'est que pour certains qui ont juste vu la petite nouvelle flash passer, puis qui n'ont pas réentendu la suite de l'histoire, ben il y en a qui vont encore avoir en tête qu'Aaron Donald, ben il a battu quelqu'un dans un bar puis que c'est un gros méchant pas fin. C'est un gros méchant pas fin sur le terrain, mais ça, c'est correct. Dans les bars, jusqu'à preuve du contraire, il a rien fait de mal. Donc, on va condamner les gens, vu que c'est une présence virtuelle là, par Twitter, à aller faire une longue file d'attente à SAQ pour se procurer le mauvais drink de leur choix. Là. C'est pas une invitation comme telle. Là. Moi, je veux les pénaliser plus en faisant une file. Là. Ils recommencent à faire froid un peu. Là. C'est parfait pour réfléchir puis se replacer les idées.
Steph, est-ce que je peux inclure tous ceux qui font des mock drafts? Puis c'est correct de faire des mock drafts, j'ai pas de problème avec ça, mais qui se prennent trop au sérieux aussi.
Ouais, non, je suis d'accord, sont les bienvenus aussi, ça fait beaucoup de monde, mais ça va faire une plus longue file.
C'est qu'ils sont pas dans les staffs de la NFL, c'est ça le problème.
Hey, on a raison, c'est eux autres qui devraient nous écouter, les staffs de la NFL. C'est mon mock draft, là, et c'est lui qui devrait être le bon.
Mais c'est correct, c'est le fun, c'est un exercice qui est plaisant à faire un mock draft, mais quand tu commences à te prendre un peu trop au sérieux puis à critiquer tous les dirigeants de la NFL, il y a peut-être...
Là, je pense qu'on a besoin d'action, puis je vais finir avec la même phrase que j'ai utilisée pour commencer l'émission, les gars. Le repêchage de la NFL s'en vient à grands pas. Enfin! Parce que enfin. Là, je pense que la saison morte, là, les spéculations et les discussions et le temps libre des joueurs, là, ça commence à être beau. C'est le temps de reprendre le collier. Ça va être ça jeudi prochain. Merci, les gars, d'avoir été là aujourd'hui. Merci, Steph. Merci, Jean. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve bientôt.
Bon draft!